Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 18 juin, il est 18h, bienvenue à bord du pédalo. Aujourd'hui, et comme depuis le début de la semaine, le pédalo s'installe au quai pour 4 émissions spéciales consacrées au concours des compagnies du Festival d'Anjou. Chaque soir de la semaine, une troupe émergente vient jouer ici une pièce originale. Et nous, de notre côté, on accueille des acteurs et actrices du festival. D'abord, on sera avec Marie Boutot, chargée d'action culturelle sur l'événement. Et puis en deuxième partie d'émission, rendez-vous avec le jury de professionnels du concours des compagnies, Zabou Bret. Ronan Inard, Nejma Egmont, Simon Delétang et Bertrand Schaff. Enfin, Pierre est allé voir la pièce Unfuckable. Il est avec nous sur le plateau pour tout nous raconter. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du jeudi 18 juin. Alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et pour démarrer cette émission, on accueille Pierre, notre chroniqueur pour la semaine. Salut Pierre.
Salut Simon.
Alors si tu es là, c'est pour nous raconter la pièce du concours des compagnies que tu as vue hier et qu'on a reçue à notre micro, Unfuckable.
C'est tout à fait ça. Donc, sur le plateau, elles sont quatre. Quatre à essayer d'écrire une lettre au patriarcat, enchevêtrées dans une cabine où elles sont à l'étroit. N'est-ce pas le symbole de ce système patriarcal et masculiniste, justement, qui prévaut depuis des siècles, créé par des mâles dominants pour les hommes? Elles étouffent dans cet espace exigu et elles ont des choses à lui dire à ce patriarcat. Pas facile de trouver les mots, alors elles débattent, elles se débattent, se posent plein de questions. Pourquoi elles en sont arrivées là? Elle au passé, au présent et au futur. Elle entre réalité et fiction. Elle, petite fille, grande fille, à partir de quand on n'est plus une enfant. Elle parle de celles qui montent prendre un dernier verre, de celles qui ont les beaux yeux, de celles qui ont grossi, de celles qu'on arrête dans la rue. Celles qui se taisent et celles qui crient « Unfuckables », c'est nous. Quatre femmes sur un plateau de théâtre en vrai, parfois imaginées, fantasmées, mais aussi quelquefois pas elles du tout.
Alors à travers l'interview d'hier, j'ai senti qu'elle exprime beaucoup de rage envers le patriarcat, mais avec aussi une véritable force pour changer les codes relationnels.
Oui, tu as raison Simon, j'étais à côté d'elle également, j'ai ressenti la même chose. En fait, la pièce incarne un féminisme sans concession, mais vivant et joyeux. D'abord, pourquoi ce titre? Elles l'ont choisi pour deux raisons. On dit souvent aux féministes qu'elles sont imbaisables, c'est la traduction, parce que lorsqu'on devient féministe, on devient moche. Et également parce que je ne veux plus me faire baiser, tu m'as eu, tu m'auras plus. À partir de leur vécu individuel, elles ont monté une œuvre collective qui ne prétend pas, comme elles l'ont dit hier, recenser ce que vivent toutes les femmes depuis des lustres. Juste leur parcours de vie qui ont nourri le contenu de la pièce, leurs constats, anecdotes, leurs colères et leurs espérances. Ici, le féminisme ne chuchote pas, il frappe, il interroge, il rit, et surtout il met le public face à ce que des millions de femmes pensent sans toujours oser le dire.
Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé en tant qu'homme?
Effectivement, je suis un homme et également classé dans la catégorie des boomers ou des seniors, comme on dit. Je veux dire par là que j'ai traversé les années 70, 80 et 90 en tant que jeune adulte, et avec le recul, effectivement, la relation homme-femme n'était pas la même, et surtout pas celle de maintenant. Le féminisme existait déjà à l'époque, je l'ai côtoyé, mais il n'avait pas la même ampleur et la même résonance qu'actuellement. Je précise que les combats actuels résultent aussi de ceux menés par de grands noms tels que Gisèle Halimi ou Simone Veil. Je trouve très légitime toutes ces actions depuis quelques années, surtout à travers l'émergence de MeToo et les faits divers qui jalonnent malheureusement régulièrement l'actualité. Et cette énergie initiée par les femmes doit être de plus en plus suivie par les hommes, car il y a fort à faire devant l'immobilisme, les freins, les reculades, les dénis, la mauvaise foi et le manque de courage des pouvoirs politiques. Et justement, elle les nomme, les politiques, responsables d'entretenir et surtout de renforcer leur pouvoir. Il n'y a qu'à regarder la composition des différents gouvernements depuis 2017. Au sujet de Unfuckable, elle-même, la pièce est un uppercut asséné aux hommes. Mais on ne doit pas être KO et s'en relever et rebondir après avoir réfléchi et en changeant les codes entre les femmes et nous. En cela, l'introduction assez longue qui recense un ensemble d'expressions ou de réflexions directes, crues, déplacées, vulgaires, dégradantes, agressives, violentes envers les femmes et entretenues par la société, nous met tout de suite dans l'ambiance. Plus tard, l'une des comédiennes défile la longue liste des célébrités mises en cause ou même condamnées, se prénommant souvent Patrick, ça c'est drôle, et même interrompue par une de ses consoeurs car la liste est trop longue. Ensuite, au fil des séquences qui se succèdent ou s'entrevêchent entre réalité et fiction, j'ai été particulièrement sensible au monologue de chacune des quatre comédiennes qui relatent leur véritable parcours de vie, perché sur un plot, et enchaîné aussitôt par la parodie, par exemple, d'un stage thérapeutique et de mise en situation du genre « Comment satisfaire son mari ?» ou bien à la fin, la vision futuriste de l'émancipation des femmes.
Et ta conclusion ?
Tu l'as bien compris, ces quatre comédiennes, on voit le patriarcat se faire foutre. Mais la forme et le spectacle vivant a cette puissance et cet impact qui doit particulièrement être défendu, surtout en ce moment, permet les nuances. À travers encore et toujours l'humour, elles oscillent également entre la colère, les revendications, les luttes, mais aussi l'espoir, les alternatives et les solutions. Si bien que lorsqu'on groggy, mais toujours debout. Surtout après la conclusion de la pièce en forme d'interrogation, les hommes sont-ils tous des connards ? À nous les hommes au quotidien d'entendre ce message, d'en tenir compte, de ne pas simplement être bouleversés, ou pire, indifférents à l'annonce d'un nouveau féminicide, de se positionner de manière politique et sociétale aux côtés des femmes pour transmettre à nos enfants et petits-enfants des valeurs et des codes équilibrés, équitables et justes.
Merci beaucoup Pierre pour cette chronique. On rappelle le concours des compagnies, ça continue ce soir et demain avec les pièces Seul comme Maria et Intro.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Comme depuis le début de la semaine, à l'occasion du Festival d'Anjou, on accueille des acteurs et actrices qui font l'événement. Et pour cette dernière émission, on est avec Marie Bouteau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es la chargée d'action culturelle sur le festival. Pour commencer, question rituelle que je pose à tout le monde, comment il se passe cette édition 2026 du Festival d'Anjou qui est déjà bien entamée ?
Eh bien, très bien. Comme l'ont dit mes collègues, le temps est avec nous et donc c'est déjà très bien. Et non, tous les voyants sont ouverts, on est très contents et on a hâte de voir la suite.
Le temps est avec nous, mais il fait quand même très très chaud. Pour l'instant, ça rebute personne.
Pour l'instant, ça ne rebute personne. Et puis, on verra la semaine prochaine.
Alors, en tant que responsable culturel, ton rôle, c'est d'être une intermédiaire entre les artistes et le public. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait définir ou est-ce que ça va encore plus loin ?
Alors, moi, c'est même plus large que ça. Je suis médiatrice culturelle. Donc, mon rôle, c'est de faire du lien entre un objet culturel et un public. Là, il se trouve qu'au festival, ce sont des spectacles, mais plus les spectacles finalement que les artistes. C'est plus l'œuvre qu'on va essayer de soit décortiquer, soit de rendre accessible que ou le festival lui-même que vraiment l'artiste. Voilà.
Parce que c'est vrai que le festival attire forcément des gens qui sont de base très intéressés par le théâtre, mais dans ton rôle, il y a aussi faire en sorte que des gens qui soit n'ont pas connaissance de l'événement, soit n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, puissent aussi venir et assister aux pièces.
Oui, tout à fait, tout à fait. On a un public très très large au Festival d'Anjou, donc, comme tu l'as dit, des gens qui ont l'habitude de venir, des habitués du festival et du théâtre, mais aussi soit des gens pour qui c'est la première fois, qui viennent, comme l'a expliqué Violaine Daboville mardi, qui viennent à travers grâce à des associations et des partenariats qu'on a pour la première fois au théâtre. Et donc il est important de les accueillir comme il faut et parfois de leur donner 2-3 clés, mais c'est pas toujours nécessaire, ça dépend vraiment des spectacles. Et puis aussi leur donner envie, leur faire comprendre aussi ce que c'est que de mettre en place un festival, qu'est-ce que c'est que le théâtre. On organise par exemple des visites techniques qui permettent de comprendre le travail qu'il y a aussi derrière le spectacle, derrière la scène. On organise des rencontres avec les artistes et puis plein de petites choses autour des spectacles qui permettent soit de le rendre accessible, soit qui donne un petit lien et qui permet d'avoir un moment de convivialité avant de voir le spectacle.
Alors dans les différentes actions qui peuvent être menées, il y a sur certaines choses un lien beaucoup avec la jeunesse. On était hier avec le jury jeune justement qui va remettre un prix à l'occasion du concours des compagnies. C'est toi qui les accompagnes. Oui. Comment ça se passe avec eux? Quel rôle tu leur apportes?
Déjà un rôle d'accueil. Je les accueille et je leur permets de, enfin de, j'essaie qu'ils se sentent à l'aise au festival et que qu'ils n'aient besoin de penser à rien. Et puis lors de leur délibération chaque soir, puisque chaque soir après les spectacles, le jury jeune se retrouve et discute, débat de ce qu'ils ont vu. J'anime les débats. Je ne donne jamais mon avis, mais voilà, j'essaie de soit de pouvoir relancer, soit de pouvoir leur permettre de clarifier leurs pensées, ou j'essaie de reformuler et de résumer, parce que c'est beaucoup de l'élaboration de la pensée par la parole. Voilà, histoire de simplement de cadrer le débat, mais. Voilà, je les accompagne tout au long de la semaine.
Alors, on le dit souvent depuis le début de la semaine, le Festival d'Anjou, c'est une grosse machine. Comment est-ce qu'on arrive à s'organiser dans ce genre d'événement pour pouvoir remplir pleinement cette mission de médiation culturelle sur un aussi gros festival ?
Ah, comment on s'organise ? Alors, nous, c'est un peu particulier. On arrive assez tard, nous, les médiateurs culturels sur le festival, puisqu'on est aussi médiateur au château du Plessis-Massé. Donc, jusqu'à mi-mai, finalement, on accueille des écoles, on accueille d'autres publics au château du Plessis-Massé, pas du tout sur les spectacles. Donc on travaille à partir de mars par petites touches pour essayer de préparer les spectacles, de voir aussi quel public on va accueillir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'intéressant sur tel ou tel spectacle. Et puis après on a deux semaines à fond pour terminer nos recherches et créer le contenu qu'on va pouvoir leur proposer.
Donc finalement, contrairement à d'autres personnes qu'on a pu recevoir dans la semaine, le travail est plus intense pendant qu'en amont.
Tout à fait, en tout cas, oui.
Et est-ce qu'il y a un lien qui est fait aussi avec les personnes qui s'occupent de la programmation pour pouvoir avoir justement une offre qui va coller aux attentes de toi en tant que médiatrice culturelle, qui va permettre de jouer ce rôle d'accessibilité à un public large?
Nous, c'est toujours un peu... On attend la programmation de Jean-Robert Charrier chaque année avec impatience, parce qu'elle détermine vraiment ce qu'on va pouvoir proposer au public et les types de publics qu'on va pouvoir accueillir. Enfin, on peut accueillir tout le monde tout le temps, mais il y a des publics qui vont plus s'intéresser à certains types de pièces. Par exemple, cette année, on n'a pas eu de classique sur le festival, de pièces de troupe, de classique. Bon, il se trouve que c'est comme ça. Et ce qui fait qu'on avait une action qu'on avait mis en place les autres années qui s'appelait les classiques en famille, qui permettait aux jeunes enfants et aux ados de pouvoir d'avoir un petit moment avec leurs parents pour jouer autour des classiques et des codes du spectacle avant de le voir. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas reproposé cette année, par exemple, parce que ça ne s'est pas représenté. Mais non, on n'a aucune... Non, Jean fait sa programmation de manière très indépendante et c'est chouette.
Et en fonction de ce qu'il a proposé cette année, est-ce qu'il y a des actions comme celles de l'année dernière qui ont été mises en place ?
Alors du coup cette année un peu dans le même style pour les familles, on a proposé à Saumur un atelier réviser l'histoire de France en famille pour le spectacle Une histoire de France de Patrice Thibault qui est un spectacle sans parole où Patrice Thibault raconte sa version de l'histoire de France mais sans aucune parole, et donc on a proposé un petit atelier à travers des jeux pour les familles de réviser un petit peu. On a fait un timeline pour pouvoir se revoir un peu les grandes dates de l'histoire de France, et puis ensuite un time's up pour voir différents personnages historiques et essayer de voir comment est-ce que soi-même, en mime, sans parole, on peut les incarner.
Alors on le sait, malheureusement, il n'y a plus de financement régional pour la culture chez nous. Comment est-ce que, en tant que médiatrice culturelle et chargée d'action culturelle, on fait sans ? Comment est-ce qu'on arrive à se réorganiser pour quand même réussir à assurer une mission efficace ?
Eh bien, ça, c'est plutôt le travail de Violaine Daboville que vous aviez reçue mardi. C'est elle qui, avec Ronan Pichavant, et qui essaie d'aller chercher des subsides. Heureusement, on a des mécènes qui flèchent leur mécénat sur des actions en particulier. Je pense par exemple à Veolia qui finance une action envers les MFR, les maisons familiales et rurales. et donc qui permettent à des jeunes qui ne connaissent pas le théâtre, qui ne sont pas du tout de ce milieu, d'avoir une après-midi entière et un spectacle, voilà, une après-midi entière dédiée au théâtre à travers des ateliers avec des professionnels.
Mais est-ce que ce financement plus faible, ou en tout cas cette différence dans la manière d'être financé, change toi ton travail? Ou est-ce que t'as dû te réadapter?
De toute façon, c'est une adaptation de chaque année et de chaque jour. La baisse de financement, on essaie tout de même d'accueillir un maximum. Ce qui change, c'est qu'on peut moins faire appel à l'extérieur, à d'autres professionnels et qui ont des spécialités particulières, et on est obligé de se recentrer un peu sur nos corps de métier, sur des choses peut-être parfois plus simples. Mais bon, on se débrouille.
Et le rôle d'un festival comme celui-là, c'est de réaffirmer aussi l'importance de la culture dans la société.
Tout à fait.
Dans ton travail aussi, ça fait partie de... C'est une mission centrale que tu cherches à montrer?
Tout à fait. Oui, que tout le monde puisse avoir accès à la culture, c'est hyper important. D'ailleurs, en général, on a des très bons retours. C'est pas simple quand on n'a pas les codes, quand on n'est pas le milieu, surtout quand on arrive au château du Plessis-Massé, où ça peut être un peu impressionnant d'avoir ce gros château, toutes ces infrastructures, cette grande scène. C'est un milieu qui peut un peu faire peur, et avec beaucoup de codes. Et donc l'idée, c'est que tout le monde se sente le plus à l'aise possible, finalement.
Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir été avec nous. Donc on rappelle, tu es chargée d'action culturelle et médiatrice sur le festival. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Dans quelques instants, on reçoit les membres du jury professionnel du concours des compagnies, Zabou Bretman, Ronan Inard, Nejma Egmont, Simon Delétan et Bertrand Schaff. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Ojoun, c'est un projet de musique électronique porté par le compositeur Guillaume Chartrain. Le titre s'appelle Terra Nueva et c'est avec Marie Lanfroy et Carlo De Sacco. A tout de suite dans le pédalo.
Si, par d'autres mots encore... Dans une langue dont je traduis en vain l'éloquente harangue, ses ancêtres venaient, pour l'enfant endormi, rendre à la mère cruelle un témoignage ami. Lentement, je sentais sourdre au fond de mon être l'irrésistible et fou désir de la connaître. Et contre ma grand-mère, je lui donnais raison, triste, enchaîné dans mon sermon comme en prison, j'osais raconter à la vieille mon rêve. Et j'allais parfois seul m'asseoir à la grève, et devant cet espace où jamais je n'irai, amoureux de la mer, je pleurais en secret.
C'était Terra Nueva de Ojoun, Marie Lanfroy et Carlo De Sacco. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du pédalo. Et aujourd'hui, on est au quai pour le dernier plateau spécial consacré au concours des compagnies du Festival d'Anjou. Et pour cette dernière partie d'émission, on est avec les membres du jury professionnel, la comédienne Zabou Bretman, Ronan Inard, administrateur et coprogrammateur du Théâtre du Nord de Lille, Nejma Egmont, journaliste culture, Simon Delétan, metteur en scène et directeur du Théâtre de l'Orient, et Bertrand Schaff, directeur de la production et de la coordination artistique à la Comédie Française. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Alors, donc, on est jour 4 du concours des compagnies. Comment ça se passe pour l'instant? Vous prenez du plaisir en allant voir toutes ces pièces?
Ah bah oui. Sinon, on ne serait pas là.
On ne sait jamais.
Bien sûr qu'on prend du plaisir. À découvrir, ce n'est pas les voir, en plus, c'est les découvrir. C'est ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qui vous a donné, toutes et tous, envie d'accepter, de participer à ce jury du concours des compagnies? Cette découverte, justement, c'était vraiment central?
Le pognon, en fait, on a été extrêmement bien payé, grassement payé, et on a regardé beaucoup de trucs. Non, c'est pas vrai, on n'a rien, on est là,
j'ai eu peur.
Trime, on bosse, non, on aime ça, c'est juste qu'on aime ça, tout le monde aime ça, là, ici, je pense.
Les autres?
En fait, l'invitation nous a été faite par Jean-Robert Charrier, qui nous a dit venir passer une semaine à découvrir des jeunes compagnies, mener la vie de château avec des gens formidables, ça vous tente, et... On n'avait pas très envie, mais on s'est forcé, quoi. Voilà.
Il a bien su vendre
le. Il a vraiment bien vendu les choses. Non, mais on est ravis d'être là.
Oui, en plus, c'est l'occasion de découvrir des compagnies régionales, hein, puisqu'on est aussi dans une région où il y a eu des coupes budgétaires importantes. Donc le festival aussi a pris sa part de responsabilité. Et ça permet effectivement de voir des artistes qu'on n'aurait pas forcément découvert, hein, puisque, en tout cas, moi, je suis plutôt sur les jeunes compagnies bretonnes de par mes fonctions, ou j'imagine Ronan dans le Nord. Et donc, on est aussi curieux de découvrir des écritures qui sont aussi différentes, des axes qui peuvent nous déplacer.
Et avant de... Oui, peut-être, vas-y, tu...
Non, et puis il ne faut pas sous-estimer le poids que ça peut avoir, un prix dans un festival comme celui-là. Accompagner des jeunes artistes, les soutenir via un prix, c'est aussi leur permettre d'avoir une plus grande facilité pour ensuite tourner leur spectacle à travers la France, et d'avoir un jury qui représente aussi différents théâtres à travers la France, ça permet aussi ça.
Bertrand Schaff, peut-être un mot?
Je crois que là, mes copains ont vraiment tout dit, là.
Ok.
C'est ça, faut vraiment pas arriver dans le même.
Effectivement, on va changer l'ordre tout à l'heure, voilà, pour la prochaine question. ce festival d'Anjou, qui est quand même un événement important, ça vous évoquait quoi avant d'être jury ici? Est-ce que c'était quelque chose qui vous parlait?
Déjà, c'est la 76e édition, si je ne me trompe pas, et moi j'avais la chance d'être venu la saison dernière avec la Comédie Française et un spectacle qui s'appelait Les Serges, où on avait du coup découvert le festival, découvert les équipes du festival, découvert le lieu, l'accueil. Et on est très heureux d'être ici, et je trouve que le Maine-et-Loire a beaucoup de chance d'avoir un festival tel que celui-ci, et on remercie le département. Je crois que le festival le remercie, mais nous aussi on est très fiers que le département puisse soutenir ce festival.
Moi, ce que je trouve assez frappant dans ce festival, c'est effectivement la variété des spectacles proposés, la variété des lieux, et un public qui est ultra curieux, enthousiaste, enfin c'est fou de voir des gens, 1500 personnes se lever au Plessis Massé, dans la salle du Quai d'Angers aussi pour les jeunes compagnies. Voilà, il y a quelque chose de très ouvert et très enthousiaste, et c'est hyper agréable d'être assis sur les rangs de ces spectateurs-là.
Et je crois qu'à l'image de la programmation de Jean, les spectateurs peuvent voir à la fois du théâtre public, à la fois du théâtre privé, du théâtre subventionné, du stand-up, des one-man shows, et ça donne vraiment une grande représentation de ce qu'est l'art vivant aujourd'hui.
Et même au sein du concours des compagnies, il y a aussi cette diversité, on la retrouve?
Oui, forcément. Il y aura d'ailleurs, on va voir ce soir, c'est un seul en scène, donc il y a des formes totalement différentes, et ça c'est vraiment formidable de découvrir. Mais Zenejma, évidemment, il y a cet aspect qui est quand même formidable, de voir tellement de publics concernés. Donc quand on dit que le théâtre, il n'y a pas de gens, on voit que c'est absolument pas vrai. Et en plus, ils sont tous au fait de tout ce qui se passe, parce que quand on présente beaucoup de choses au public, le public est friand et voilà, il se régale.
Alors est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, c'est votre première fois au Festival d'Anjou? Je sais que Zabou était déjà venu y jouer il y a quelques années, mais est-ce que vous découvrez, ou est-ce que vous revenez ici régulièrement et avec plaisir?
Moi, c'est ma première fois. Mais j'avais déjà suivi la programmation sur les réseaux sociaux, sur les saisons précédentes. J'avais déjà vu le travail formidable qui était mené par Jean et Ronan ici dans ce festival. Et c'est vrai, comme on le disait juste avant, ce qui était frappant, moi, ce que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était vraiment la diversité des propositions. Et là, je ne suis pas déçu. Je trouve que cette édition est à l'image des précédentes, avec une belle diversité de propositions. Et je trouve que ça se retrouve dans la différence des lieux. Enfin, le fait que le Quai d'Angers, qui est un centre dramatique national, soit aussi investi dans ce festival, ça montre que les ponts sont possibles entre les différentes institutions et différents mondes du théâtre.
Alors moi, je n'ai jamais joué. Running gag. Et en revanche, j'ai découvert le festival l'an dernier en tant que producteur, puisqu'on le Théâtre de l'Orient produisait un spectacle avec Vincent Dedienne, Camille Chamou et Léopoldine Achache à partir des correspondances de tournée de Camille et Vincent. Et donc j'ai découvert à cette occasion-là le château du Plessis-Massé, ce lieu absolument inouï pour se retrouver devant du spectacle vivant. Donc évidemment, j'avais très envie de redécouvrir, de voir l'aspect plus effectivement compagnie, puis cette diversité de programmation dont on parlait, qui fait la force du festival maintenant, parce que il y a un tournant aussi qui s'est fait, je pense, au fil des années sur l'ouverture à des formes parfois plus exigeantes, plus différents types d'écriture, et le public répond présent. Donc ça prouve aussi qu'il y a une confiance dans la direction de ce festival, et ça, c'est la meilleure des réponses.
Et alors pour Zabou, qui y a déjà joué, c'est quoi de venir se produire ici au Festival d'Anjou? Qu'est-ce que ça a de particulier?
Alors déjà, c'est quand même en plein air, quand on joue devant le château, c'est quand même très particulier. Ça, c'était spécial. Ensuite, il y a la bienveillance du public. Ça ne veut pas dire qu'ils avalent tout et qu'ils sont contents quand on leur donne n'importe quoi. C'est qu'ils sont là au bon moment. Moi, en ayant joué seule sur scène avec ce public-là, j'étais très réconfortée, on va dire, par le regard, parce qu'on le sent, le regard. Parfois les gens rient, parfois les gens rient pas, mais on sent quand un public est avec nous ou pas, et donc ça se sent. Alors que le 1500 personnes, c'est beaucoup, et on a l'impression que c'est pas possible, et oui. Et il y a l'accueil, évidemment, des équipes du festival qui est quand même extraordinaire. Là, que ce soit donc en tant qu'artiste ou que ce soit là en tant que juré, on est, tous les jours, la façon dont on s'occupe de ce festival, mais qu'on s'occupe des gens aussi, c'est vraiment à signaler, parce que c'est merveilleux, quoi. On est dorloté.
Pour rebondir sur ce que disait Zabou, c'est vrai que cet accueil est hyper important, et il me semble que la qualité de l'accueil est la même, qu'elle soit accordée aux artistes, aux jurés que nous sommes, et au public, parce que pour en avoir discuté avec quelques spectateurs, les spectateurs nous disent à quel point ils sont accueillis ici avec bienveillance, on ne voit que des sourires partout où on va. C'est pas toujours le cas quand on va au théâtre, et on y va beaucoup tous.
Un mot peut-être rapidement pour conclure sur vous en tant que jury, comment vous allez, sur quels critères est-ce que vous allez noter, prendre votre décision sur les pièces que vous allez voir? Qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur, chacun et chacune? Ou alors est-ce qu'il y a une espèce de barème commun?
Je crois que ça sera l'émotion. Je crois que, comme on l'avait dit au moment du lancement du festival, le théâtre n'est pas une science exacte, on est cinq, on n'a pas les mêmes goûts, on n'est pas sensible aux mêmes choses. Mais quand on voit déjà les trois premiers spectacles qu'on a vus, on sent que sans avoir de critères objectifs, nos avis se retrouvent, se ressemblent. Et je pense, oui, que ça sera sur l'émotion. C'est aussi très agréable pour nous de travailler ou d'être à côté d'un jury jeune. Je crois que vous les avez reçus hier. Et ils sont assis juste derrière nous, et de sentir leur réaction, de sentir leur présence. Et même sentir les spectateurs réagir au spectacle, forcément, ça nous influence un petit peu. Donc je laisse mes camarades dire, mais je pense que ça sera sur l'émotion.
Sur l'émotion, oui, peut-être rapidement.
Oui, rapidement. Comme disait Bertrand, c'est pas une science exacte. On a tous des ressentis qu'on partage après chaque spectacle. Il me semble que ce qui est important, enfin en tout cas pour moi, c'est la promesse d'avenir que porte une compagnie, que porte un spectacle. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit est intéressant dans l'écriture, dans la forme, dans le jeu. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on peut imaginer demain et le chemin qui attend une compagnie qu'on a envie de soutenir.
et donc vous allez la soutenir en vous réunissant donc demain, c'est ça, après le dernier spectacle. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir été avec nous. Je rappelle, ah, tu veux peut-être dire un dernier mot ?
Merci.
Oui, merci. Merci donc Zabou Bretman, comédienne, Ronan Inard, administrateur et coprogrammateur du Théâtre du Nord de Lille, Nejma Egmont, journaliste culture, Simon Delétang, metteur en scène et directeur du Théâtre de Lorient, et Bertrand Schaff, directeur de la production de la coordination artistique à la Comédie Française. Vous êtes donc les membres du jury pro du concours des compagnies. Bonne soirée. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi dans nos studios. Merci et à Étienne à la technique. Un grand merci également à Ronan Pichavant, le directeur du festival, pour son aide et pour la mise à disposition des invités durant toute la semaine. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.